Donc je vais d'abord dire rapidement comment j'étais amené à écrire ce livre, qui est en fait porté par une trajectoire, non seulement parce que j'y parle de beaucoup de musées, d'expositions que j'ai vues personnellement, pas l'exposition coloniale de 1931, bien sûr, mais d'autres, mais aussi parce qu'ils nouent ensemble un certain nombre de fils de travaux ou d'intérêts antérieurs. Puisque j'ai effectivement travaillé d'une part sur la genèse coloniale des savoirs anthropologiques en France et en Grande-Bretagne, en particulier sur l'Afrique. Et pour résumer, on pourrait dire que pour les Britanniques dans l'entre-deux-guerres, l'Afrique est un laboratoire. Un laboratoire où étudier la transformation des sociétés, alors que pour les Français, l'Afrique est un musée. Un musée où découvrir les origines de l'humanité. Et effectivement, un des faits marquants, c'est la place qu'occupe le musée, ce qui va devenir le musée de l'homme en 1938, dans l'histoire de l'ethnologie française. Donc il y a deux façons très différentes qui se mettent en place à ce moment-là. D'un côté, l'ethnologie africaniste côté français, et puis une nouvelle discipline qui s'appelle l'anthropologie sociale côté britannique. Bon. Autre terrain qui est autour du Brésil, en particulier depuis 10 ans dans le nord-est du Brésil, dans la région des grandes plantations de canne à sucre, autour des questions de réforme agraire et autour de, donc dans une enquête au départ et encore en grande partie en collaboration avec des anthropologues brésiliens, autour de qu'est-ce que ça signifie quand le monde de la plantation de la canne à sucre s'effondre et est remplacé par quelque chose de neuf, un monde nouveau dont on ne sait pas encore très bien comment ça fonctionne et quelles sont les règles qui vont dominer dans cet univers. Et à partir de cette enquête, en fait, on avait mis en place, à la fois du côté brésilien à Rio, au Musée national, et du côté français dans une entreprise commune entre l'École normale supérieure et puis l'École des arts déco, qui est une voisine à Paris, donc avec des ethnologues, des anthropologues, des chercheurs et des artistes, le projet de faire une exposition, alors qui n'était pas une exposition aussi luxueuse que le Musée du Quai Branly, mais qui était essentiellement à partir de photographie, d'extrait d'entretien, exposition dont l'enjeu était justement de montrer, d'une part, qu'est-ce que c'est que le travail des anthropologues aujourd'hui, c'est-à-dire justement dire comment est-ce qu'on peut présenter un travail anthropologique actuel et pas ce qu'était le musée de l'homme qui présentait une façon de faire l'anthropologie des années 30, et puis d'autre part, qu'est-ce que c'est que présenter un processus. Donc pas une culture statique comme la culture il y a à Recife actuellement, le musée de l'homme du Nord-Est, qui est le musée de l'homme, mais à l'échelle de la région Nord-Est. Je dirais un mot de ce type de musée tout à l'heure. Et là, c'était au contraire montrer un processus. Bon, donc ça, c'était cet intérêt pour les expositions est aussi à la source de ce travail. D'autre part, j'ai eu l'occasion de travailler sur le rapport entre certaines pratiques savantes ou pratiques d'érudition orientées vers l'érudition locale en particulier, l'histoire locale, enfin le folklore local, etc. Une enquête qui était d'ailleurs pour la mission du patrimoine et qui a donné lieu à un article dans la revue Terrain qu'évoquait à l'instant Christian Jacquelin, qui s'appelait « Le goût du passé ». Donc un peu, vous voyez, le même un titre semblable, « Le goût du passé », sur justement érudition locale et appropriation du territoire. C'est-à-dire comment est-ce qu'à travers un investissement dans le passé local, on affirmait un certain rapport identitaire avec le local. Et vous voyez bien que quelque part, c'est un peu l'autre aspect, le goût du passé du côté de soi, le goût des autres du côté de l'extérieur. Et puis, dernier aspect qui apparaît aussi, un intérêt pour les transformations de l'anthropologie, du savoir anthropologique, qui s'est manifesté à la fois d'un côté avec un retour sur l'histoire de la discipline et de l'autre vers un numéro de la revue Critique que j'avais organisé avec Michel Lapels en 2004 qui s'appelait Frontières de l'anthropologie et qui essayait un peu justement de réfléchir sur les frontières vives de l'anthropologie aujourd'hui. Alors, bon, c'est un peu ces différents fils, comment est-ce qu'ils arrivent ensemble? Eh bien, autour justement de ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire la création, donc qui est en route depuis 1995-96 à peu près, du musée du Quai Branly, prenant la place à la fois du musée de l'homme d'un côté et du musée des arts africains et océaniens de l'autre. Et en fait, ça a été marqué, ce transfert, par une polémique qu'évoquait tout à l'heure Christian Jacquelin. Et il y avait en gros deux positions, c'est-à-dire d'une part un petit nombre autour de Jean Rouch et du Musée de l'Homme qui voulait absolument maintenir ce musée, qui adhérait fondamentalement au projet du Musée de l'Homme autour de la question de contexte ethnographique. Et le livre de Bernard Dupeigne était quelque part un peu une défense de cette position. Et d'autre part, quelques anthropologues qui étaient favorables au projet qui y participaient, soit par conviction, soit parce qu'ils espéraient y trouver une opportunité pour le développement de la discipline. Et bien entendu, l'appui donné par Claude Lévi-Strauss à ce projet a été très important et fortement mis en avant par les promoteurs du projet, à commencer par le président de la République, Jacques Chirac. Et finalement, il y a eu des interventions, des discussions, mais pas vraiment de mobilisation de la profession comme telle, des anthropologues, autour d'un projet. Et pourtant, c'est à mon sens un moment essentiel où justement va s'achever en quelque sorte, c'est le point final d'un paradigme qui était le paradigme qu'incarnait le musée de l'homme qui avait été pensé pour être le laboratoire de l'ethnologie en France. Et c'est d'autant plus important que parallèlement à cette fin du musée de l'Homme, on a eu la fin du musée des ATP, le musée des arts et traditions populaires qui était au bois de Boulogne, qui a été fermé aussi en 2005, avec là encore l'idée de constituer un nouveau musée, donc qui va être le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille. Alors la dernière date que j'ai entendue ce soir serait 2012 pour l'ouverture. Mais en tout cas, le musée des arts et traditions populaires était l'équivalent pour le musée de l'Homme pour la France, pour l'ethnologie de la France, du Musée de l'Homme, c'est-à-dire à la fois un laboratoire et puis un lieu de présentation des objets. Donc cette fermeture, en quelque sorte simultanée, est un signe que quelque chose bougeait dans l'ethnologie. Alors finalement, dans ce livre, les gens me disent qu'il y a plusieurs livres dans cet ouvrage, et c'est sans doute vrai, et j'ai aussi essayé de l'écrire pour différents publics, et pour qu'il soit accessible pas seulement aux spécialistes. Donc le premier fil qu'on pourrait trouver, c'est comment est-ce que le monde, et en particulier le monde des autres, alors j'en viendrai sur cette notion d'autre parce qu'elle peut donner lieu à malentendu, a été mise en musée depuis un siècle, voire depuis plus loin. Deuxième fil, au-delà, qu'est-ce que c'est que ces transformations du musée nous disent de notre cosmologie, c'est-à-dire, alors c'est un gros mot, cosmologie, un gros mot d'anthropologue, mais de la, pour dire les choses plus simplement, de la façon dont nous nous situons dans le monde, dans une opposition entre nous et les autres. Et je dis tout de suite, donc effectivement, cette opposition entre nous et les autres, il faut voir ça comme une opposition qui est d'ordre mythique, c'est-à-dire de notions qui sont le « nous » et les autres, mais qui renvoient en fait à des réalités qui sont variables et qui évoluent au cours du temps et en fonction des situations. Donc c'est effectivement les autres n'existent pas en tant que tels. Enfin, il y a d'autres, bien sûr, des habitants d'autres continents, mais l'idée qu'il y aurait des autres qui constitueraient une espèce de bloc par opposition à nous, ça, c'est de l'ordre de l'imaginaire, ou plutôt du mythe. Bon. Troisième réflexion autour des transformations du savoir anthropologique, qui s'est longtemps défini comme l'étude des autres, et savoir qui entretient justement un rapport complexe avec ce phénomène beaucoup plus répandu que j'appelle le goût des autres. Goût des autres qui s'exprime à travers à la fois le succès du musée du Quai Branly, celui auparavant du musée d'Appert, mais aussi de la musique, de la world music, mais aussi par exemple ici à Montpellier, des boutiques d'art ethnique comme que j'ai vu cet après-midi, comme El Inca, où vous trouvez à la fois de l'artisanat du Népal, d'Inde, de Chine, du Pérou, et tout ça dans une espèce, disons, d'ensemble qui est effectivement caractérisé par son altérité, par ce côté non occidental. Donc, Comment je parle de goût des autres, alors vous m'avez demandé à une autre intervention, mais pourquoi est-ce que vous ironisez sur le goût des autres? Finalement, c'est quand même mieux que la haine des autres. Alors certes, il n'y a pas de doute de ce point de vue-là. Et je voudrais dire que je ne me mets pas dans une position supérieure, en quelque sorte, en disant « regardez comme c'est ridicule », etc. Il y a des aspects, effectivement, qui peuvent faire sourire. Mais je vous rassure, moi aussi, j'ai chez moi de l'artisanat brésilien, mexicain, enfin des choses comme ça. Et ça j'écoute des musiques exotiques. Voilà. Bon, mais donc c'est plutôt, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir qu'il y a un rapport entre cette espèce de goût diffus qui est présent de façon assez générale dans un certain nombre de secteurs de la société française, mais plus largement occidentale aujourd'hui, et finalement, justement, ce savoir disciplinaire qu'est l'anthropologie. Cette espèce de, finalement, de rapport entre un goût pour une altérité, un exotisme contemporain. Finalement, je pense qu'il y a pas mal en commun. Alors, c'est pas la même chose, mais il y a des points communs entre, justement, les gens qui vont aller visiter les boutiques d'art ethnique et les gens qui vont au musée du Quai Branly. Et qu'on visite l'un en rapport avec l'autre. Il y a des effets, en quelque sorte, de contamination de l'un à l'autre. Y a un jeu sur des références communes, même si effectivement c'est pas le même segment de marché d'un point de vue justement de marché de l'art. C'était ça qui m'intéressait effectivement dans le musée du Quai Branly, essayer d'analyser cette forme contemporaine de l'exotisme et puis essayer de remonter justement alors en arrière. Parce que si on veut interroger le goût des autres, c'est effectivement faire une anthropologie de nous-mêmes. Et là, la question se pose tout de suite, comment est-ce qu'on peut faire une anthropologie de nous-mêmes alors qu'on en est effectivement part et qu'on partage quelque part ce goût des autres. Mon problème n'était pas de me demander effectivement est-ce que le musée du Quai Branly est mieux que le musée de l'Homme et moins bien, est-ce que c'est une chance pour l'anthropologie ou pas, mais plutôt d'essayer de prendre du recul par rapport à ça et essayer de dire qu'est-ce que ça signifie. C'est quelque chose d'assez fondamental, ce changement de musée, derrière les querelles institutionnelles, derrière effectivement ce qu'on peut, du point de vue de la sociologie des professions, appeler une espèce de lutte professionnelle entre la profession des anthropologues d'un côté qui dominait les musées de l'Homme et puis la profession on va dire à la fois des conservateurs et des administrateurs de la culture qui dominent au niveau du musée du Quai Branly. Donc il y a un changement professionnel qui est net, et puis aussi les collectionneurs qui ont leur rôle à jouer. Et c'est parce que, effectivement, si on prend un point de vue sociologique, on peut analyser les polémiques comme justement une lutte entre professions, entre un groupe professionnel qui, chacun, ont des arguments et se disputent en quelque sorte le même terrain. Et le musée du Quai Branly représente effectivement, je pense qu'on ne peut pas le contester, une défaite professionnelle des anthropologues dans un premier temps. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce soit une négative pour la discipline en tant que telle. Mais en tout cas, dans un premier temps, c'est une perte de contrôle, puisque les anthropologues au musée de l'Homme à la fois dirigeaient l'institution, contrôlaient les collections, contrôlaient leurs sorties, etc. Et alors qu'au musée du Quai Branly, ils sont toujours présents, mais dans un secteur qui est celui de la recherche et de l'enseignement, n'a pas véritablement, c'est plus compliqué en réalité, mais qui n'a pas véritablement de contrôle, en tout cas sur l'ensemble du musée. Je reviens sur cette question, comment réfléchir sur un moment dont on fait partie, c'est l'actualité, comment est-ce qu'on peut réfléchir anthropologiquement là-dessus? Eh bien, je pense qu'il y a deux façons de le faire. L'anthropologie, pour moi, c'est le regard décentré, plus que le regard éloigné. C'était essayer justement de décentrer par comparaison son regard, à la fois en adoptant une démarche historique, donc en essayant de faire la généalogie du présent. D'autre part, c'est d'essayer de regarder ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, au Brésil, au Mexique, enfin, ou dans d'autres lieux. Cette espèce de double démarche, en quelque sorte, est un peu justement ce qu'on retrouve dans le plan du livre, puisque la première partie que j'ai appelée de l'exposition coloniale au Musée de l'Homme, le triomphe de l'ethnologie, essaye de revenir justement un peu sur le moment, ce qui est pour moi le moment fondateur de ce goût des autres dans sa version moderne, qui est justement l'entre-deux-guerres, en gros, avec à la fois le pôle d'un côté exposition coloniale et de l'autre le musée de l'homme comme apogée, en quelque sorte, de ce projet ethnologique. Et puis ensuite, ce projet qui va se perdre de la densité, qui va finalement perdre de sa présence. Et d'autre part, les musées des autres entre mythe et histoire, où j'essaye à la fois de revenir sur les transformations des musées des autres, alors depuis les cabinets de curiosité du XVIe siècle, puis justement l'arrivée des premiers objets à l'époque de la Renaissance, des objets exotiques à l'époque de la Renaissance, en gros, enfin, on pourrait faire remonter ça auparavant. Mais bon, on peut toujours faire remonter les Genèses à l'infini jusqu'à Hérodote, mais c'est pas ça mon propos. Et puis d'autre part, passer justement par la question des mythes sur lesquels repose, à mon avis, le musée du Quai Branly, c'est-à-dire à la fois le mythe des arts premiers et le mythe des peuples premiers, j'y reviendrai. Et puis d'essayer donc de réfléchir sur les transformations actuelles des musées des autres dans un monde postcolonial. Est-ce que ça a encore du sens d'avoir cette opposition musée des autres, musée de soi, dans un monde postcolonial, dans la mesure où ces frontières entre nous et les autres sont fortement brouillées. Bon. Alors, donc, je pourrais peut-être dire deux mots sur cette question, justement, musée des autres, musée de soi, puisque ça joue un rôle assez important dans mon travail. Ce que j'appelle les musées de soi, en fait, c'est la plupart des musées. C'est des musées qui, pourrait-on dire, répondent à la question « qui sommes-nous ?», même s'ils y répondent de façon diverse. Mais ils y répondent comment ? Essentiellement en présentant un certain nombre de témoignages qui présentent à la fois le passé, l'enracinement dans l'histoire, les traditions ou bien l'art, qui est lié à une communauté qui a une base locale, une base territoriale, qu'elle soit communale, départementale, régionale. Et donc, c'est une opposition, bien sûr, du point de vue de l'identité, musée des autres, musée de soi. C'est pas, il y a plein de façons d'opposer les musées. Là, c'est par rapport à la question de l'identité, c'est cette opposition qui me paraît la plus pertinente, au moins en première analyse. Après, on peut compliquer les choses. Mais donc, ces musées de soi, c'est quoi ? Bien, par exemple, le musée languedocien, ici, à Montpellier, qui présente justement à la fois l'archéologie locale, la faïence de Montpellier, qui présente les traditions, l'art populaire, etc., présente à travers, donc, il y a une société d'archéologie de Montpellier, société privée, qui vient du 19e siècle, société d'histoire locale. Et donc, le musée incarne en quelque sorte cette histoire du lieu, incarne ce lien avec un territoire. Autre musée de soi que j'ai vu il n'y a pas longtemps, le musée basque à Bayonne, dont effectivement la thématique commune, c'est tout ce qui concerne le Pays basque, depuis les fromages jusqu'à la pelote, en passant par les peintures, la pêche, etc. Enfin, donc c'est un musée dont la pertinence est définie par le rapport à une identité de soi, une identité basque. Et par opposition à ces musées de soi, ce que j'appelle musée des autres, je ne suis pas le seul à employer ce terme, c'est quelque chose qui est bizarre, parce que justement, c'est des musées dans lesquels, au lieu de présenter les objets du lieu, de soi, on présente des objets qui viennent de loin, qui sont effectivement exotiques au sens propre, c'est-à-dire effectivement qui sont originaires de lieux lointains et qui ont été ramenés justement chez nous. Alors, à chaque fois que je dis « nous » et les autres, il faut penser des guillemets qui, justement, doit faire cette différence entre ce qui est de l'ordre du mythe et ce qui serait de l'ordre la construction mythique et ce qui est de l'ordre de ce qui serait un constat objectif. Donc, objets qui ont été ramenés de chez les autres, chez nous, dans des circonstances variées, qui sont à la fois donc des missionnaires, des colons, des explorateurs, des savants, des militaires. Tout ce qui est depuis le 15e siècle, en fait, tous les rapports entre l'Europe et les autres continents ont finalement produit entre autres, une arrivée d'objets qui se sont accumulés dans les musées, dans des lieux pas très bien classés, comme des curiosités, etc. Et finalement, dont on a fini par faire ces musées consacrés aux autres, musées d'ethnographie essentiellement au 19e siècle, et puis, dont certains, justement, enfin, musées d'histoire coloniale aussi, comme c'était le cas au musée de la Porte Dorée, avant qu'il ne devienne le musée des arts africains et océaniens, ou bien musée d'art non occidental, comme justement ce musée des arts africains et océaniens, comme l'était le musée des arts les musées d'art primitifs de New York autrefois, comme le musée Barbier Muller à Genève, ou comme l'est le musée du Quai Branly. Donc c'est un peu cette espèce d'opposition, en quelque sorte, avec laquelle on se trouve aujourd'hui. Et le musée du Quai Branly, de ce point de vue-là, est le dernier avatar de ces musées des autres. Et ce qu'on comprend par rapport à une généalogie dans laquelle il faut faire rentrer justement à la fois le musée d'ethnographie du Trocadéro à la fin du 19e siècle, dont nous a parlé, j'imagine, Nelia Diaz, l'exposition coloniale de 1931 comme un moment où justement on met en scène la diversité des peuples et des civilisations de l'Empire. Parce qu'à l'époque, l'Empire français, et pas seulement l'Empire français, puisque vous avez aussi, dans cette exposition coloniale, sont présents à la fois les Belges avec le Congo belge, les Hollandais avec l'Indonésie, tout un ensemble de présentations, en fait, d'empires qui sont présents. Donc la diversité du monde est présentée en miniature dans cette exposition coloniale. Et c'est une des étapes souvent oubliées dans la généalogie du Musée de l'Homme, qui, lui, pour le coup, va prendre, en fait, faire un choix qui est celui, justement, de la tradition scientifique dans la tradition du musée d'histoire naturelle. C'est-à-dire qu'on va, en gros, pour dire les choses de façon simplifiée, le musée d'histoire naturelle, c'est-à-dire qui, justement, va présenter les groupes, les peuples du monde sur le modèle des espèces naturelles. Et en fait, on pourrait regarder, analyser la façon dont sont faites les vitrines. Alors, il y a différents modèles de musées d'histoire naturelle. Je ne rentre pas dans le détail ici. Mais cette idée, finalement, qu'on va faire, le musée va être le lieu d'une encyclopédie du monde, à la fois dans son travail, c'est-à-dire c'est le lieu où on va classer, on va regrouper d'abord tous les objets, de même que le Muséum d'histoire naturelle regroupe des spécimens de plantes, de papillons, de vertébrés, etc., etc., et ramène tout dans le muséum, là, les savants les classent, etc., et puis finalement, on les expose pour le bénéfice à la fois du public et des savants, hein, cette espèce de double chose qui est faite. Et bien, le musée d'ethnographie, comme le musée de l'homme, suit plus ou moins le même programme. C'est-à-dire que le musée de l'homme est pensé comme un lieu de centralisation des données. Et j'étudie dans un des chapitres un petit peu ce modèle dans les années 30, où ces expéditions françaises, dont on dit que c'est l'invention du terrain dans les années 1930, du terrain ethnographique, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait, c'est plutôt des expéditions justement sur le modèle naturaliste qu'on envoie dans la périphérie coloniale au sens strict, c'est-à-dire par exemple dans le cadre de l'Afrique, l'expédition Dakar Djibouti qui est bien connue, ou bien pas directement coloniale comme c'est le cas des expéditions de Lévi-Strauss au Brésil, où on pourrait parler de colonialisme interne plutôt que de, puisque bien entendu le Brésil est un pays autonome, mais a un rapport de type colonial en fait entre l'État national brésilien et la périphérie dans laquelle habite encore cet nombre d'Indiens. Et donc je décris un peu les conditions dans lesquelles avance la mission de Lévi-Strauss, qui a justement une des différences avec le contexte colonial, c'est que on se trouve face à un nouvel État, l'État national brésilien, qui commence à vouloir conserver son patrimoine. Et un des enjeux entre Claude Lévi-Strauss et son compagnon brésilien, qui est envoyé par le Musée national de Rio aussi pour le surveiller, en fait, pour surveiller ce qu'il fait, eh bien, c'est un peu de qui va justement s'emparer du patrimoine qui est considéré comme brésilien. Il y a un cas qui est assez amusant, c'est que il y a une course aux ossements entre Claude Lévi-Strauss et Luiz de Castro Faria, donc le Brésilien, puisque le Brésilien cherche, il y a un ambiquara qui a été enterré récemment, etc. Il veut le déterrer pour ramener ses ossements. Les ossements sont à l'époque considérés non pas comme des restes humains, mais d'abord comme un élément scientifique. Et on lui dit, mais monsieur Lévi-Strauss est déjà déterré. Donc, bon, il perd la première manche, mais la deuxième manche, ça va être quand Claude Lévi-Strauss va vouloir quitter le Brésil. À ce moment-là, les douanes brésiliennes vont mettre un embargo sur les squelettes en disant c'est un patrimoine national, donc ça ne peut pas quitter le pays. Donc, bon, ces enjeux, justement, dans un contexte non colonial, sont différents. Mais l'idée, en tout cas, est la même de cette expédition, qui est d'aller collecter le maximum de choses, le maximum de données, à la fois des objets, des mots de vocabulaire, des films, des photographies, des coutumes, et de ramener tout ça au musée. Et là, on va les classer et on va mettre en ordre le monde. Le musée est un lieu de mise en ordre du monde. Et ça, c'est le cas pour tous les musées, puisque tout le musée propose justement une vision du monde qui est ordonnée en fonction de certains principes justement qui dépendent du type de musée. Un musée d'art ordonnait en tout cas ces objets à la fois par école et en fonction d'un canon esthétique. Le trésor religieux les ordonne en fonction de leur valeur sacrée. Le musée d'histoire naturelle en fonction de la valeur de spécimens, des différentes pièces, etc. etc. Enfin, chacun de ces musées a ses propres principes de classification. Mais en tout cas, le musée réalise de façon pratique une mise en ordre du monde. Qui est à l'intérêt justement d'être traduite de façon visuelle dans l'exposition, ce qui fait justement que le musée est un lieu particulièrement intéressant pour étudier des représentations qui sont matérialisées. C'est comme si le musée matérialisait une vision du monde à travers justement les collections, la façon dont il ordonne les collections qu'il présente au public. Je vais pas. Enfin, on pourrait donc évoquer d'ailleurs. Enfin, et là encore une fois, ce principe d'un musée laboratoire, hein, c'est-à-dire un musée justement dans lequel non seulement on présente au public les résultats de la science, mais on fait le travail scientifique. Et ce qui est commun au musée de l'homme et au musée des arts et traditions populaires est aussi, je crois, repris dans le projet du MUCEM, du musée de Marseille, de redonner vie à cette notion de musée laboratoire. Et donc ces musées sont conçus comme le cœur de la discipline. Hein. C'est vraiment beaucoup plus qu'un... Parfois on a tendance à penser que le musée c'est seulement le lieu où on va exposer les choses. Non, le musée de l'homme c'est conçu pour être le cœur, le cerveau, le centre nerveux, enfin toutes les métaphores organiques seraient valables ici, de ce nouveau savoir qui est l'ethnologie, qui est conçu comme la science de l'homme. Et c'est une espèce de projet qui est extrêmement enthousiasmant dans l'entre-deux-guerres, qui est une espèce d'utopie scientifique, finalement. Cette idée qu'on va pouvoir totaliser en un seul lieu, à Paris, alors avec un système de réseaux, de relais, de musées dans les colonies, et puis justement ces expéditions qui sont une espèce de tentacule du musée, qui vont chercher les choses et les ramènent sur place, et qu'on va pouvoir justement avoir un espèce de savoir total. Et il y a cette expression qui est assez fascinante, employée par Marcel Griaul, qui dit « voilà, on va constituer les archives totales de l'humanité ». Et ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire cette idée, effectivement, que le musée est un lieu d'archives pour les sociétés dites sans écriture qui n'ont pas d'archives. Donc, comme on n'a pas d'archives au sens de décrit, on va justement faire ces archives totales qui sont du côté de ces objets, de ces données, etc. etc. Et on va centraliser tout ça dans le musée. Et là où je dis que ce paradigme de la collecte va avoir une durée de vie assez longue, c'est qu'il me semble qu'il va organiser la pratique des ethnologues même après que le musée lui-même ait perdu de l'importance. C'est-à-dire qu'on va avoir l'idée qu'on va sur place, sur le terrain, pour collecter. On va collecter, on va faire une monographie qui est descriptive. Et si vous voyez, par exemple, les monographies des années 60 dans le cas français, c'est un espèce de... On a très souvent un plan qui est... On va décrire tout par le menu, c'est-à-dire on va les instruments de cuisine, la façon de cuire le pain, les châtaignes, etc., la façon de nommer les animaux, le cycle des saisons. Enfin, vous avez comme ça une espèce de plan. Là, il y a des guides d'enquête, justement, pour donner ça. Et donc, on collecte tout. Et la consigne, à un moment donné, et même, il ne faut surtout pas interpréter. Il faut collecter de façon descriptive, etc. Et l'ethnographie, c'est descriptif. Et si vous voyez la façon dont Claude Lévi-Strauss, justement, va théoriser ça dans sa fameuse tripartition entre ethnographie, ethnologie et anthropologie, avec l'ethnographie qui est un niveau descriptif sans théorie, l'ethnologie qui est une synthèse, ou bien régionale, par exemple l'ethnologie du Languedoc, ou l'ethnologie des basses terres de l'Amazonie, ou bien l'ethnologie du coucher, par exemple, enfin, des façons de dormir ou de la consommation de la bière. Bon, premier niveau de synthèse. Et enfin, l'anthropologie, qui est là la synthèse au niveau général, avec la proposition de loi sur ce qu'est l'homme, anthropos, l'espèce anthropos, dans sa généralité. Et qui reste, en fait, un élément déterminant de l'anthropologie française dans la durée, me semble-t-il. Cet élément organisateur. Et finalement, par exemple, quand Claude Lévi-Strauss va attaquer quelqu'un comme Malinowski en disant « Voilà, oui, bon, excellent ethnographe et piètre théoricien », c'est parce que, justement, il y a l'idée que, à la fois l'ethnographie est importante, mais ça n'est que le premier stade. Et finalement, on va construire avec ces briques ethnographiques un espèce de bâtiment, de palais anthropologique qui sera le résultat final. Et ça, finalement, c'est la traduction du modèle du Musée de l'Homme dans un paradigme scientifique. Et ça reprend le paradigme naturaliste avec l'opposition entre la collecte, le classement et puis la formulation de lois qu'on trouvait déjà plus ou moins chez Buffon. Alors, voilà. Bon, donc je vais pas refaire dans le détail l'histoire de ces musées, mais ce qui me semble intéressant, c'est la façon dont justement les divers musées qui se succèdent, dans le cas français en particulier, mais on pourrait faire la même chose ailleurs, vont se poser le problème de mettre en scène la différence. Et de mettre en scène la différence donc dans des modalités variées. Et avec l'idée, et c'est là où les années 30 me paraissent un moment important, où on passe d'un vocabulaire de la hiérarchie, hiérarchie des races et des civilisations, dans un modèle essentiellement évolutionniste, ce que j'appelle un modèle différentialiste, qui justement, comme pour reprendre des paroles du maréchal Lyautey, qui est responsable de la mise en place de l'exposition coloniale en 1931, dit voilà, il ne faut plus parler de races inférieures, mais de races différentes. Et il faut comprendre cette différence pour s'adapter à elle d'un point de vue politique. Donc il y a à la fois un programme intellectuel, comprendre la différence, et un programme politique qui est justement, il y a tous des débats justement sur la politique coloniale de la France, où il y a, en gros, le débat est de dire, voilà, il faut avoir une politique coloniale qui serait adaptée aux particularités des différents peuples sous la domination coloniale. Et en fait, vous voyez que cette espèce de débat, en quelque sorte, entre universalisme plus ou moins évolutionniste et différentialisme, on est encore largement dedans aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui me paraît intéressant quand on voit les années 30, c'est que sous une forme plus marquée, moins embarrassée parce que moins, en quelque sorte, enfin moins de gêne par rapport à ce qui s'est passé depuis, donc de façon plus grossière et plus violente, les choses sont exprimées de façon forte, mais dont on retrouve aujourd'hui des traces dans l'opposition entre, par exemple, l'idée que, sur la question de l'universalité des droits de l'homme, que faire de la différence ? Est-ce qu'il faut justement appliquer les droits de l'homme sur le modèle occidental partout ? Ou bien est-ce qu'il faut prendre en compte la différence, etc., comme différence culturelle qui empêcherait justement d'appliquer ce modèle. Finalement, on est dans une certaine continuité par rapport à la question coloniale, avec un contexte qui a changé. Bon, ça, c'est important de le dire. Mais je trouve que finalement, cette espèce de position, de dilemme, se met en place plus ou moins à ce moment-là. Et ce qui est intéressant par rapport à la question du musée, c'est que ça va de pair, justement, avec des modes d'exposition. Et les objets, c'est ça qui est intéressant dans les expositions ou les musées, c'est que les objets ne sont pas présentés pour eux-mêmes, mais sont mis en place dans les discours. discours qui vont insister soit justement sur une histoire coloniale, par exemple une histoire de l'évolution. Alors vous avez ça aussi dans les musées missionnaires, où on va présenter à la fois les objets du fétichisme païen, etc. Et puis ensuite les objets des vierges, enfin les vierges africaines, etc., produites par les artisans africains, qui montrent, qui témoignent justement du changement, de la conversion, à travers les objets. Donc les objets sont pris dans une histoire. Et on trouve l'équivalent dans le récit de civilisation. Au contraire, dans le type de récit différentialiste, on va mettre en avant la différence. Et on va mettre en avant une différence qui peut être attribuée à des critères ethniques ou raciaux, ou bien à des critères culturels. On va encore... avoir un discours de type primitiviste, qui est ce qui domine un ensemble de courants artistiques, où justement on va reprendre le discours évolutionniste, mais en l'inversant. C'est-à-dire que là, on disait finalement, l'art africain, c'est l'enfance de l'art, donc c'est un art imparfait, c'est les débuts de l'art, c'est comme l'art préhistorique finalement, hein, c'est l'art préhistorique ou l'art africain, c'est pareil, ça nous fait remonter aux origines de l'humanité, et donc c'est ce dont l'art doit se distancer, bien, mais l'art doit se distancer pour arriver à un véritable art. Eh bien, dans le primitivisme, on inverse ça, on dit non, c'est l'enfance de l'art, et justement, il faut retrouver ce geste instinctif, original, et c'est comme ça que l'art va se ressourcer. D'où le fait que des gens comme Tristan Tzara, par exemple, dans le mouvement Dada, va dire, voilà, il faut rompre avec... Il faut faire l'histoire de l'art à l'envers et remonter au-delà Michel-Ange, toute la Renaissance italienne, etc., vers l'art médiéval, l'art byzantin, l'art égyptien et l'art nègre. L'art nègre étant vu comme, justement, ce début des origines de l'art. Donc j'essaye un peu de montrer comment ces différents discours sont présents, se mêlent, et puis surtout vont influencer la façon dont on regarde les objets. C'est-à-dire que quand on arrive aujourd'hui dans un musée, quand on arrive au musée du Quai Branly, je crois que c'est faux de croire qu'on peut avoir un espèce de regard vierge, un regard complètement comme ça, qui va permettre de découvrir les choses. Je pense que justement, on arrive avec un regard qui est chargé, et pas seulement un regard, enfin, c'est plus qu'un regard, mais qui est chargé de toute cette histoire, justement, toute cette histoire complexe des relations entre l'Europe et les autres continents. Alors, j'essaye un petit peu justement de faire la généalogie, finalement, de ce musée du Quai Branly et de la façon dont il exprime à la fois l'émergence, finalement, de ce thème de l'art primitif qui est transformé en art premier. Enfin, comme moi, je fais la généalogie de ce terme d'art premier chez quelqu'un comme Jacques Kerchache, qui, justement, renvoie à l'idée qu'il y aurait une espèce de fond commun instinctif qui reprend la notion d'art primordiaux chez Malraux. Et André Malraux, quelqu'un qui, en fait, est fondamental en arrière-plan du musée du Quai Branly, avec l'idée qu'il y aurait une espèce de substrat commun à toute l'humanité qui serait exprimé de façon plus forte, plus nette, dans les arts africain et océanien, mais qu'on trouverait aussi dans l'art contemporain. Et c'est comme ça que Malraux disait, le fond, l'arrière-plan de toute biennale d'art contemporain, c'est le musée de l'homme. Avec cette idée, justement, que cette espèce de pulsion primitive, on la retrouverait à la fois dans cet art ancien et dans l'art contemporain, par-delà l'espèce de parenthèse qu'aurait été l'art, entre guillemets, classique. Donc, mythe des arts premiers d'un côté, et puis mythe des peuples premiers de l'autre, et c'est-à-dire qui, à mon avis, est effectivement un des mythes contemporains, mais qui a des racines plus anciennes, autour justement un peu d'une espèce de mythe urbain, où on va se réinventer une espèce de monde des origines, où il y aurait des peuples, comme on dit en allemand, des peuples de la nature, Naturvölker, en harmonie avec la nature, qui vivent, des espèces d'écologistes naturels, qui vivent dans la forêt amazonienne, qui ont une espèce d'écologie primitive, comme Marx parlait du communisme primitif autrefois, et d'un espèce de monde d'avant la chute, en quelque sorte, de paradis terrestre qui serait encore présent. Et je pense que on voit ça très bien dans un certain nombre de représentations. D'ailleurs, peut-être moins du côté des objets que du côté de la photographie ou du film. Par exemple, alors ça peut être des travaux d'ailleurs de très grande qualité. Hein, je pense il y avait eu dans l'exposition qui s'appelait Yanomami, l'esprit de la forêt, qui avait eu à Paris à la Fondation Cartier, qui était une très belle exposition, qui était très intéressante dans son propos parce que c'était fait par un anthropologue, Bruce Albert, avec à la fois le directeur de la Fondation Cartier pour l'art contemporain, donc du côté art contemporain, et puis, troisième pôle, le leader Yanomami, David Yanomami, donc... pardon ? Copenhague, vous avez raison, effectivement. David Copenhague. Qui utilisait le moyen de l'art pour faire passer un message politique qui était un message, en gros, de survie identitaire. Mais parmi les œuvres qui étaient présentées, il y avait des œuvres d'artistes contemporains, etc., des choses très intéressantes, il y avait un film de Raymond Depardon qui était magnifique sur, justement, les chamans et chasseurs. Où on voyait les Yanomami dans la forêt, à la fois dans la forêt, en train de chasser, et puis en train de faire une cure chamanique. Et on les voyait prononcer. Et puis, ce qui était frappant, c'est qu'il y avait pas... il n'y avait pas de traduction de ce qu'il disait. Donc on avait cette impression à la fois de beauté, c'était extraordinaire quoi, de voir ces images, une grande beauté, et en même temps d'un monde dont on était radicalement coupé, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il disait, c'était des gens qui parlaient, mais qui étaient effectivement dans l'altérité, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de relation avec eux. Je pense que ça, c'est effectivement un peu un danger de cette mythification d'une où finalement on altérifie en quelque sorte les autres pour une forme de consommation esthétique. Et ce qui me semblait, c'est que les Yanomami avaient joué cette carte en quelque sorte de correspondre à leur mythe. Parce que c'était aussi politiquement rentable. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ce que j'appelle les usages de l'essentialisme, c'est qu'il y a un essentialisme ethnologique, il y a un romantisme ethnologique qui, à mon avis, s'exprime en particulier dans la collection qui a eu un grand succès en France, Terre humaine, hein, qui, comme vous le savez, est une collection grand public. Je pense que la plupart d'entre vous ont dû lire des livres de cette collection parce qu'il y a des très beaux livres qui ont été publiés dans cette collection, mais qui présente à la fois des récits d'anthropologues, le premier étant bien sûr Tristan Tropic de Claude Lévi-Strauss, Balandier, etc., d'autres ont écrit, mais aussi d'écrivains régionalistes comme Pierre-Jacques Azélias, et c'est là où on voit justement le lien entre le mythe du soi, de la tradition, et le mythe des peuples premiers qui viennent jouer dans les deux cas, dans une espèce comme ça de renvoi à un passé mythique des origines, et aussi des gens qui sont des voyageurs, qui sont pas du tout ethnologues, mais qui sont allés effectivement parmi les bédouins du désert, etc., comme William Thesiger. Et par exemple aussi donc, du côté de ces images, on pourrait penser, il y a actuellement une exposition qui s'appelle Origine à Paris, des photographies de Sébastien Salgado, qui est un grand producteur de mythes, avec un certain talent pour ça, qui incarne en quelque sorte tout à fait cette espèce de justement de l'origine. Ce sont les peuples des origines qui sont présentés. Je ne vais pas parler plus longtemps, parce que je pense que c'est important qu'on puisse avoir de la discussion, mais je voudrais terminer sur ce qui me semble aussi important et qui, je crois, justement rejoint un peu le principe du bistrot des ethnologues, c'est-à-dire l'idée d'écrire pour différents publics, c'est-à-dire de ne pas d'essayer de... Ces questions me paraissent trop importantes pour être laissées aux seuls anthropologues, en quelque sorte, et pour être uniquement... c'est le sujet de débat dans la discipline, et c'est important que ça ait lieu, mais je pense que c'est un enjeu tout à fait essentiel que celui, justement, de la représentation de la façon dont on présente ici, aujourd'hui, au XXIe siècle, donc la façon dont habitent, la façon dont vivent les habitants des autres parties du monde. Et un des problèmes, justement, c'est cette idée qu'il y aurait, en quelque sorte, les autres et nous. Et quand on dit le musée du Quai Branly, beaucoup de gens vont le visiter, en disant « Ah, c'est un très beau musée, j'ai beaucoup aimé, c'est très bien, ça me plaît beaucoup ». Alors, vous avez, qu'est-ce qui vous a plu ? Ah ben, je sais pas, c'est l'ensemble, mais finalement, tout ça est un peu... Il faudrait que j'y retourne, parce que tout ça se mélange un peu dans ma tête. Bon. Et effectivement, l'idée que de ça se constitue un espèce de bloc qui serait les autres, les premiers, art premier, peuple premier, qui irait depuis les civilisations précolombiennes du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'art aborigène contemporain, en passant par les peintures des églises coptes d'Éthiopie ramenées par la mission Dakar de Djibouti, ou bien par la cosmologie amérindienne. Tout ça, finalement, n'a pas de propriété commune. La seule chose qui est en commun, c'est pas des caractéristiques propres, ni une cosmologie primitive, ni une esthétique première, ni des formes de pensée, ou ni un esprit du sacré qui serait présent partout. Non, c'est une histoire commune par rapport à nous. C'est une position dans une relation entre l'Europe et les autres continents. Dans un rapport qui a été largement un rapport colonial. Alors, je pourrais revenir sur ce que j'entends par rapport colonial au sens large. Et finalement, c'est ce rapport entre l'Europe et les autres continents, entre la France et les autres continents, dans le cas d'espèces, qui donne son sens au musée, qui donne son sens à la collection. Et ce qui n'est pas présent. En fait, ce que le visiteur n'a pas, on ne lui donne pas les éléments pour se rendre compte de ça. Donc, on reste dans une position où on va nous présenter les autres. On vous donne accès aux autres, lieu au dialogue des cultures, c'est ça la publicité, le slogan du musée du Quai Branly. Alors là encore, effectivement, le dialogue des cultures, c'est mieux que le clash des civilisations, il n'y a pas de doute, enfin, c'est plus sympathique comme notion. Mais on reste dans cette espèce d'idée, justement, voilà, d'une grande opposition entre l'occidental, l'Occident, le non-occidental. Et je pense que c'est là où le musée du Quai Branly en particulier est en décalage par rapport à la conception qui est celle de l'anthropologie aujourd'hui en général, mais aussi par rapport à, je crois, celle qui va de plus en plus être la conception des gens, enfin des visiteurs même du musée. Et donc cette opposition entre nous et les autres qui... Alors, après, aussi, un musée est une chose qui est évolutive. Parce que ce qui est important de voir, c'est que le musée, il y a un projet au départ, il y a une réalisation qui est les galeries permanentes, et puis après, il y a la façon dont il va évoluer en fonction de ses visiteurs, en fonction des usagers. Et ça, c'est des choses... On voit déjà un certain nombre de transformations au bout d'un an et demi, même pas un an et demi, dans le musée, dans les choses qu'il fait, du fait justement des visiteurs et de ce qui n'était pas prévu au départ, dans les réactions des gens. Donc ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui va se passer quand on voit la façon dont les gens utilisent le musée, le visitent, ça ne correspond pas à ce qui était prévu par ses concepteurs. Alors, c'est le cas peut-être de l'ensemble des musées, mais en tout cas, c'est un des facteurs d'évolution. Et je pense qu'effectivement, la notion de musée des autres, aujourd'hui, elle ne tient plus la route d'un point de vue intellectuel. Et qu'il faut aller du côté de ce qui serait un musée, de la relation entre nous et les autres. Et que c'est ça, à la fois, qui donne du sens aux objets que contient le musée, et c'est ça aussi qui permettrait de donner du sens au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.